second épisode du podcast du Lama Project. Le Lama Project, vous le savez probablement, c'est un laboratoire d'idées qui contribue à la transition des modèles économiques des stations de ski. Avec ce podcast, on voudrait assez simplement partager avec vous nos conversations avec des acteurs du monde des stations. Tendre le micro à des gens qu'on entend peu et tendre le micro aussi à des gens qu'on entend beaucoup, mais à qui, nous semble-t-il, on pose toujours les mêmes questions. Le but de ce podcast est d'enrichir notre vision du monde. Au Lama, il est bon de le préciser, nous ne sommes pas contre le ski, contre les stations de ski et contre les remontées mécaniques. Tout au contraire. C'est là d'où on vient, c'est notre culture, c'est notre passion. Et on revendique le droit d'être des alliés critiques de ce business. Notre objectif, notre humble objectif, c'est d'enrichir le débat et d'inciter à l'action. Pour ce deuxième épisode, nous avons tendu le micro à Eric Adamkiewicz. Il a un parcours original puisqu'il est maître de conférences en management du sport et en développement territorial à la faculté des sciences du sport à Toulouse, à la faculté d'économie et à Sciences Po Grenoble. Pendant quelques années, il a mis entre parenthèses cette carrière universitaire pour devenir directeur de l'Office du tourisme des Arcs et il a poursuivi en s'occupant de la gestion des stations de ski de la Drôme. Il intervient beaucoup sur les réseaux sociaux avec un regard très acéré et très documenté sur la question du tourisme et des problématiques des stations de ski. Le mot de transition est devenu le mot préféré des acteurs du business du sport d'hiver en France depuis à peu près un an et demi. Ce mot est dans toutes les bouches et dans tous les rapports. C'est un mot qui nous intéresse particulièrement au Lama Project. Quelle est ta définition de cette fameuse transition des stations de ski?
On commence avec une belle question piège. La transition, sans avoir réviser mon lexique avec un Larousse ou un dictionnaire. Pour moi, la transition, c'est de passer d'un état à un autre. C'est ça. Et aujourd'hui, en raison du réchauffement climatique, mais pas que, le dérèglement climatique est une des raisons, mais c'est avant que le dérèglement climatique n'intervienne, on se rend compte que pour le tourisme de montagne, il y a une baisse de fréquentation qui a été identifiée, et ça fait plus de 20 ans. Donc, ce sont deux éléments concomitants qu'il faut prendre en compte pour adapter l'offre aux évolutions de la demande. Et la transition, ou les transitions peut-être plus, sont nécessaires. Donc c'est passé d'une représentation d'un système à une nouvelle forme d'organisation, et la transition, pour moi, en l'état actuel, c'est ça. Il faut passer à autre chose.
Et est-ce qu'on est, selon toi, véritablement engagé dans cette transition? Est-ce que c'est pour le moment un effet d'annonce ou on en reste au niveau du vocabulaire, de la communication? Ou est-ce que, pour toi, on est véritablement engagé dans la transition?
Alors, on commence à envisager que bientôt, il va être nécessaire de concevoir sérieusement qu'une transition pourrait être possible. C'est un sujet que l'on aborde. Tout le monde n'a pas, de mon point de vue, la même vision de la transition. On l'a encore entendu lors des états généraux, justement, de la transition du tourisme en montagne. On n'a pas les mêmes échéances. On ne part pas du même diagnostic. Et donc, de fait, on ne va pas avoir les mêmes propositions qui vont pouvoir émerger, puisque très souvent, on ne va pas parler de la même chose. Entre ceux qui pensent qu'il n'y aura plus de neige en 2030, ceux qui pensent qu'il faut que les stations de montagne se transforme et offre d'autres prestations.
Et ceux qui pensent qu'il n'y aura plus de neige en 2100, DSF par exemple.
Moi j'en étais resté à 2050 sur l'étude de l'INRAE qui était sortie. Alors 2100, je ne sais pas où est-ce que Laurent Reynaud a sorti le chiffre. Il sort sûrement d'une étude qu'on ne montre pas, donc on ne manquera pas de consulter. Mais je rappelle que même sur l'étude de l'INRAE qui évoque la situation en 2050. Ce qui est rappelé aussi, c'est qu'il y a une accélération de ce réchauffement, de ce dérèglement climatique. Il faut arrêter de parler de réchauffement, on se fait tout savoir. Le dérèglement climatique s'accélère, et donc les échéances même théoriques qui ont été proposées sont peut-être déjà dépassées. C'est-à-dire que peut-être on dit 2050, mais ça risque d'être 2040 ou 2037.
Tu parlais de timing différent et de tempo différent. C'est vrai qu'on sent, quand on regarde un peu tout ça, qu'il y a une certaine urgence à engager la transition.
Quand on prend des décisions dans l'urgence, en général, très souvent, on va éviter de généraliser, mais très souvent, on prend de mauvaises décisions. Peut-être que la solution, ce serait de préparer la suite, justement, cette transition au moment où tout va bien. Là, aujourd'hui, les différents intervenants, enfin, quand je dis intervenants, ça va être les acteurs économiques, ça peut être les habitants, ça peut être les travaux universitaires, certains chercheurs du GIEC qui ne sont pas spécifiquement liés à la montagne, mais qui, dont les effets se montrent, ou ce qu'on rencontre régulièrement dans la presse avec la fonte des glaciers, hein, qui est...
La fonte du permafrost.
Oui, et c'est très clair, parce que les images sont parlantes d'elles-mêmes. L'urgence, elle est perçue par certains, et d'autres considèrent que l'urgence, elle sera à traiter dans 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on a des éléments, est-ce qu'on en tient compte ou pas ? Il y a deux jours, le prix Nobel, le prix Nobel a été décerné. Un Américain avec un nom d'origine japonaise, plus exactement.
Qui avait modélisé les effets du CO2 dans l'atmosphère. Ce modèle, il l'avait créé en
67. L'article qu'il a fait, qui influe l'intégralité de la recherche scientifique sur ce sujet-là, y compris par les chercheurs actuels, ce texte fondateur date de 1967. C'est-à-dire que depuis 1967, on a les éléments scientifiques qui nous font dire qu'on va avoir un dérèglement climatique et qui va s'accélérer, avec lequel, globalement, on n'a rien fait. Ou très peu, ou à la marge. Ou alors, on considère encore, pour certains, qu'aujourd'hui, que les rapports du GIEC sont une joyeuse plaisanterie. Donc, le niveau d'urgence, si on reprend la formulation initiale, elle est pas la même si on se positionne par rapport à 1967 ou par rapport à 2021 avec les connaissances que l'on a depuis cette époque-là. C'est-à-dire que ça fait plus de maintenant 40 ans, 50 ans même, que on a des éléments que l'on traite ou pas.
Et c'est vrai aussi pour les stations de ski. Il y a des travaux universitaires, on peut citer Vincent Vlès ou Philippe Bourdeau notamment, ou Emmanuel Georges, qui écrivent depuis des années, et j'ai en tête une interview de 2014 de Philippe Bourdeau, qui décrit très exactement la situation actuelle, les problèmes, les blocages, les faiblesses, et les tentatives de solutions, ou en tout cas des portes ouvertes sur l'avenir et sur un modèle économique différent des stations de ski. Donc, on sait tout ça, les chiffres sont là, les travaux universitaires le prouvent. Pourquoi est-ce qu'on met tant de temps à en tenir compte et agir en fonction ?
Alors, si on n'a pas tenu compte des textes sur le dérèglement climatique de 67 de quelqu'un qui venait d'être nobélisé, alors j'espère que Philippe Bourdeau un jour aura le prix Nobel, hein, j'aimerais bien. Ça ne fonctionne pas parce que d'abord, très peu de gens lisent ce qui est produit. On est dans une civilisation du son et de l'image, et la lecture, c'est quelque chose qui, à mon sens, a perdu de sa valeur. On a des rapports, on a une foultitude de données, de rapports officiels, de données scientifiques, même de rapports techniques, je pense, pour la montagne, aux données connaissances clients de Atout France qui sont lues par très peu de monde, par facilité, par fainéantise. On ne peut pas tous inventer le fil à couper le beurre tous les matins. Il faut qu'on se nourrisse de ce qui est produit, de ce qui est écrit. Alors, il y a 2-3 documents qui font maintenant référence. Hein, quand l'INRAE sort un document en disant 2050, il faut passer à autre chose, ça secoue un peu le cocotier, mais très peu ont lu l'intégralité de l'étude, pas plus que le rapport du GIEC qui vient de sortir en juillet, et pas plus que des données sur la connaissance des clients, les évolutions de clientèle depuis 30 ans, ou l'ouvrage dans lequel j'ai participé avec Philippe Bourdeau en 2007 sur l'avenir des stations de sport d'hiver. Donc, on peut produire de la connaissance, de la réflexion, du questionnement, parce que la recherche, c'est avant tout des questionnements et pas forcément des solutions. Mais le questionnement devrait nous permettre d'avancer. Et aujourd'hui, il y a une partie des questionnements qui ne sont pas lus, pas entendus, pas pris en compte. Et après, on découvre avec étonnement que finalement, certains l'avaient déjà écrit. Je pense aux travaux de Vincent Blais, c'est qu'effectivement, ça fait plus de 30 ans, 40 ans qu'il a travaillé dessus. Philippe, c'est pareil. Emmanuel, Georges, même chose. Voilà, c'est une des particularité de notre époque. On n'a jamais été à un temps où on avait autant accès à l'information et où on s'en sert de façon aussi peu pertinente. Par contre, pour les fake news, c'est carnaval tous les jours.
Quelles seraient, selon toi, les façons de faire avancer les choses, à ton avis? Où est-ce que ça va se passer? De quelle façon ça va se, entre guillemets, se débloquer ou se mettre en route? Alors même si on peut considérer aujourd'hui qu'il y a un mouvement qui est indubitable, hein, c'est sûr que le mot de transition, s'il est dans toutes les bouches, c'est que déjà dans les têtes, ça avance aussi. Quelles vont être, à ton avis, les façons de faire avancer les choses dans le concret?
Alors moi je suis pas futurologue. Moi, mon boulot d'enseignant-chercheur, c'est de poser des hypothèses et travailler dessus et d'aller sur le terrain, enquêter auprès de clients, auprès d'élus, faire des entretiens. Donc moi, je peux pas prédire l'avenir. Je suis pas Nostradamus, donc... Par contre, ce que j'identifie comme évolution, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les acteurs économiques, s'ils se rendent bien compte que leur chiffre d'affaires, même si dans les stations, il est encore très élevé, il y a encore de très très belles années à réussir à faire, le business est là, appelons un chat, il y a un paquet par contre de clients, et je pense aux études que G2A a produites ces deux dernières années qui montrent que quand ils font une étude, nos clients sont-ils schizophrènes? C'est-à-dire que le client qui vient aujourd'hui, il se pose la question de l'intérêt de l'activité, non pas le plaisir qu'il a à faire du ski ou du snowboard, mais qui a un côté destruction de l'environnement qui commence à le gêner. Donc en fait, une partie de la population, qu'elle soit simplement visiteur, donc touriste, ou qu'elle soit habitant des territoires, se rend bien compte que le dérèglement climatique a des conséquences et qu'une transition va être pas une option, mais une nécessité. La différence, c'est comment, et la très très grande difficulté, c'est comment on la met en œuvre. C'est là que ça commence à coincer, puisque il n'y a pas de solution miracle. Je pense que ça ne peut venir que par chaque territoire. C'est chaque territoire qui va devoir inventer sa propre transformation, mutation, transition, appelons-la comme on veut, parce que ça va partir des spécificités de l'offre du territoire, que ce soit par rapport à ce que veulent les habitants. Et ça, c'est important, que ceux qui habitent dans un territoire de montagne, mais dans le milieu rural, c'est la même problématique. Et le milieu montagnard est un milieu rural spécifique. Pour vivre à l'année, pour travailler et pour profiter de cet environnement, on se rend compte qu'on ne peut plus uniquement raisonner en croissance en nombre de clients et avec des éléments qui risquent de dégrader et donc d'obérer le futur.
D'ailleurs, en parlant de territoire et d'habitants de ces territoires, on voit des résistances naître contre des projets type Club Med, ou des projets type réserve collinaire à la Clusaz. Et on voit ces résistances qui sont assez surprenantes parce qu'on n'était pas habitué à ça. On n'était pas habitué à avoir des associations qui se montent contre des projets de promotion immobilière, contre des projets de résidences touristiques, contre des projets de réserves collinaires. C'était un acquis. On les construisait parce qu'il fallait continuer à faire vivre le ski alpin. Aujourd'hui, on sent cette résistance qui vient des territoires et qui s'exprime de façon plus ou moins organisée, mais elle est réelle et elle semble être une force importante dans cette transition.
Les acteurs, il y a certains acteurs qui vivent du tourisme, qui veulent aujourd'hui rentrer dans une autre phase, un autre moment de l'histoire, c'est-à-dire que le tourisme à tout craint et en développement permanent, ils sont prêts à dire stop. Ça, c'est une très très grande nouveauté, c'est-à-dire que les acteurs même du territoire qui en vivent disent là, on commence à voir qu'on risque d'aller dans le mur. Et c'est important parce que ce ne sont pas des gens qui sont hors sol, ce ne sont pas des bobos qui viennent pour manifester contre tel ou tel projet, ça part de gens du territoire.
Et surtout, ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des gens qui sont contre le ski alpin.
Non, mais après, il y a la caricature. Hein. Il y avait un article dans le Dauphiné, il n'y a pas longtemps, où on parlait de l'union sacrée pour le développement de la montagne entre les acteurs économiques et puis les barbus à sandales. L'activité touristique aujourd'hui, et y compris parmi ceux qui s'opposent aux retenues collinaires ou au développement immobilier, rappelons quand même qu'on est quand même sur un territoire en termes de développement immobilier où on a trop de lits en France. L'intégralité des massifs alpins, on a 2,4 millions de lits touristiques. 50% sont des lits froids utilisés moins de 3 semaines par an, là où l'Autriche, qui fait plus de journées skieurs que nous, a seulement 1 million de lits touristiques. Et dans les 1 million de lits, il y a même, a priori, les lits de Vienne, parce que ce sont des données Eurostat que j'ai réussi à récupérer, mais elles ne sont pas spécifiques à la montagne. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, ils ont moins d'un million de lits.
Et ils font la moitié des lits touristiques dans les montagnes françaises sont inoccupés, sont froids, donc peu occupés.
50%, oui. Ça, c'est le rapport de 2010 qui a été fait sur la réhabilitation de l'immobilier de loisirs. Donc, on est sur un parc immobilier qui, aujourd'hui, est pléthorique et il y a trop de lits.
Et pourtant, on continue à en construire.
Alors, on continue à en construire, ce qui n'a aucun sens, si ce n'est faire fonctionner le BTP. Et en plus, on va dans du montée en gamme, ce qui veut dire que la montée en gamme vise une clientèle principalement étrangère. On voit bien l'intérêt d'avoir une clientèle étrangère au sortir d'une pandémie, dans laquelle on n'est pas encore complètement sorti. D'ailleurs, on verra comment cet hiver va se passer. Mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire, si on cible des clients étrangers qui ne vont peut-être pas venir, ça pose un problème. Et deuxièmement, aujourd'hui, on commence à essayer d'envisager de faire de la réhabilitation d'hébergements de façon importante. Mais il n'y a aucune station qui est remplie à 100%, quel que soit le moment de l'hiver. Aucune. Et même quand on communique, vous regardez, quand on regarde les chiffres communiqués par l'Association nationale des maires des stations de montagne, comme on ne communique que sur les lits commercialisés, quand on annonce 80% ou 90% de remplissage, c'est sur les 50% de lits commercialisés. Donc, on n'est jamais rempli. Donc, quel est le sens de construction, si ce n'est avoir des opérations immobilières avec des gains financiers importants? Il n'y a pas de moratoire sur les constructions, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de contrôle et de maîtrise des prix qui fait qu'on peut avoir des terrains avec entre du 17 000 à 20 000 euros le mètre carré dans certaines grandes stations. On est dans une fuite en avant, un délire total.
Parce que là, ce qu'on peut tous constater en allant dans les stations, qu'elles soient de moyenne altitude ou de haute altitude, c'est qu'il y a des grues, des bétonnières et que ça construit. Et
quand le BTP va, tout va. C'est la formule française, mais on n'arrête pas de construire. Et on ne se pose pas la question du modèle. Et le modèle économique de nos stations, le paradoxe, c'est qu'il fonctionne, notamment pour le tourisme hivernal, sur 5 mois. 5 mois, c'est pour les stations qui tournent bien. On est sur un modèle économique saisonnier, et c'est son plus gros, à mon avis, handicap. C'est sa plus grosse force en termes de production de revenus, mais son plus gros handicap, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité de transformer un modèle qui produit autant d'activités économiques sur 5 mois et de mettre et de l'aligner sur 12.
Donc la fameuse station 4 saisons, c'est une fable, c'est une illusion?
C'est un fantasme. C'est un fantasme, sachant que, en plus, enfin, moi j'essaye de trouver une autre terminologie, parce que 4 saisons, ça veut dire que on continue de saucissonner. Et ça veut dire hiver, ça veut dire été, ça veut dire automne et printemps. Si je prends le mois de janvier par exemple, il est en pleine saison hivernale, mais le mois de janvier, avec la baisse de fréquentation qu'il y a, n'a pas les mêmes caractéristiques que le reste de la saison. Donc en fait, on a des périodes denses et des périodes moins denses dans ces zones touristiques. C'est valable pour la montagne comme pour le littoral d'ailleurs. La question, ce serait surtout comment on arrive à organiser cette occupation dans le temps et les flux de touristes. Parce qu'en organisant tout sur les 5 mois super denses, ça crée des nuisances, ça crée des perturbations, ça bouchonne, ça fait aussi un rendu de service aux visiteurs qui est pas optimal. Ça crée aussi des distorsions pour permettre aux habitants d'habiter sur le lieu de travail. Hein, aujourd'hui, quand on prend la Tarentaise, il y a une partie de la clientèle, une partie des habitants et des professionnels qui habitent autour d'Albertville et qui vont monter en voiture jusqu'à leur lieu de travail. Ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes.
Les stations de ski qui, entre autres, à l'origine, avaient pour objectif de fixer les populations dans les vallées, d'éviter qu'elles descendent... qu'elle fuit pour travailler dans les usines de fond de vallée. Finalement, aujourd'hui, l'effet est inverse. Les populations locales n'ont plus les moyens d'habiter sur la commune porteuse de stations de ski.
En partie, oui, ça se retrouve dans certaines vallées. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait une double volonté. Il n'y avait pas que fixer les populations sur site, il y avait aussi d'être un lieu de capture de devises. Hein, quand ils ont lancé
le fameux piège à devises.
Les pièges à devises. Et ce qui dit piège à devises dit bien que la clientèle qui était ciblée, c'était une clientèle étrangère. Ce qui peut aussi en partie expliquer pourquoi on a délaissé les clientèles françaises pendant de très nombreuses années. Il serait peut-être temps de s'y réintéresser rapidement.
C'est vrai que le ministre de l'équipement et du tourisme de l'époque, Albin Chalandon, qui est mort il y a quelques semaines d'ailleurs, en 69, à l'inauguration de la station de Flaine, disait très clairement « nous devons être compétitifs par rapport aux stations de ski étrangères, notamment la Suisse et l'Autriche, et nous construisons ces stations de ski pour être compétitifs sur ce marché ».
Je ne reviendrai pas sur ce que peut-être on appelle abusivement un plan neige. Parce que quand on dit un plan, ça veut dire stratégie, objectif. On imagine tous quelque chose de très raisonné, quelque chose de très construit et avec une vraie vision. Et là, à la relecture de La neige empoisonnée, j'ai quand même l'impression qu'on est sur un très bon bouquin de Daniel Arnaud. J'ai quand même l'impression qu'on était sur un grand développement non maîtrisé. C'est-à-dire que le principal, c'était de faire des stations, alors capturer des devises, fixer des populations. On a tellement fixé des populations, d'ailleurs, qu'on en a fait venir. Il y en a qui sont venus. Il y a des urbains qui sont venus habiter en montagne et qui ont trouvé que c'était très, très bien. Enfin, j'en fais partie. Hein. Typiquement, avec ce profil-là. Mais on n'est pas sur quelque chose qui a été, à mon avis, assez raisonné, au sens maîtrisé. C'est-à-dire que je pense même qu'en partie aujourd'hui, on a les conséquences de notre non-contrôle du système. Sinon, on ne continuerait pas de construire, par exemple. Quand on a un marché qui est en légère baisse, on a moins de fréquentation, l'intégralité des hébergements ne sont pas remplis, on continue de construire.
Comment est-ce que tu penses que ça pourrait s'infléchir ?
Pour l'instant, je ne vois pas de signaux qui me laissent penser que ça pourrait s'infléchir. Tant qu'on continuera de construire, on aura toujours l'illusion que le marché est en croissance. Or, les taux de fréquentation nous montrent qu'on est toujours limité, que personne n'arrive à remplir totalement. L'arrêt de l'immobilier, enfin, ça c'est un gros casse-tête, parce que personne ne va oser franchir le pas. Pourtant, le rapport de 2010, il est très clair, hein, faut arrêter de construire.
Et la Suisse nous a montré l'exemple avec la loi Weber, est-ce que ça fonctionne bien?
Mais l'axe Weber... Ouais, mais les Suisses, ils sont pas tellement novateurs. Ils ont fait ça en 2012. Oui, c'est limité à 20% de lits touristiques sur un territoire.
Ça fonctionne, ça? Ça marche bien?
Alors, c'est un système qui a des retombées sur les territoires, notamment pour travailler à l'année, enfin pour que on arrive à vivre à l'année. Ça évite un certain nombre de lits froids. Enfin, ça, c'est une vraie réussite. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que ça a ses limites parce que personne... Pour les investissements, ça pose un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas la solution miracle, enfin, on ne la connaît pas. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de chaque territoire devoir construire sa propre transition et adapter en fonction de ses spécificités. Une station comme Val Thorens n'aura pas les mêmes problématiques que le Collet d'Alvar, le Grand Bornand ou Avoria. On a des configurations qui sont complètement différentes et c'est là où dans chaque territoire, chacun va devoir... construire avec ses atouts, avec son histoire et avec les volontés locales de faire ou pas.
Est-ce que tu ne penses pas quand même que l'État, et à travers ses différentes agences de cohésion des territoires, etc., le plan montagne n'a pas mis en route cette transition et ne s'intéresse pas de près à cette transition pour la financer et l'accompagner avec de l'ingénierie?
J'ai sur le réseau professionnel critiqué le plan Avenir Montagne que j'ai trouvé assez pitoyable en tout état de cause. C'est-à-dire que c'est une suite de rustines obsolètes qui sont présentées et je le déplore. C'est-à-dire que les services de l'État ne sont pas en mesure de faire un vrai plan. Ce qui nous indique quand même que l'intérêt du sujet est tout à fait relatif. C'est-à-dire que si on ne se penche pas sur la question et qu'on est capable de prendre un pseudo-plan de ce niveau-là, ça veut vraiment dire qu'on ne s'y intéresse pas. L'État, est-ce que l'État remplit son rôle? Je crois que depuis la décentralisation, l'État a surtout cherché à se désengager et laisser les territoires responsables de leur propre développement ou massacre local. J'utilise bien le terme en disant ben, si vous êtes maître chez vous, vous faites comme vous voulez. Si vous avez choisi de détruire votre territoire, on vous laisse faire. Et je crois qu'il n'est plus temps de tergiverser. Et d'ailleurs, les citoyens, les habitants qui commencent à poser des questions sur le fonctionnement le montrent. Et c'est là où c'est une véritable évolution. C'est-à-dire que les acteurs même de l'économie touristique et qui en vivent se rendent bien compte que si on n'infléchit pas, ce qui a été lancé. Là, on est vraiment sur le Titanic, hein, mais et le Titanic continue d'avancer tranquillement. Il percute l'iceberg, l'orchestre joue avec entrain, on a moins de clients, on a une pandémie au milieu qui est venue tomber. On ne s'intéresse toujours pas à la question du nombre de places dans les hôpitaux des vallées, par exemple, hein, qui sont, à mon avis, à prendre en compte dans l'équation. Mais c'est les hôpitaux, c'est les services, c'est la gendarmerie, c'est l'intégralité de ce qui permet à un territoire de vivre à l'année. Eh bien, tous ces aspects-là ne sont pas traités parce qu'on est dans une logique, au niveau de l'État, d'économie de services, en laissant les collectivités locales, au niveau des régions ou des départements et des communes, assumer leurs propres choix. Et autant l'État a impulsé et a permis le développement des stations, autant aujourd'hui, de mon point de vue, non seulement ils n'accompagnent pas bien les territoires, mais ils font rien et ils laissent la situation se dégrader. C'est dur, mais c'est, pour moi, c'est à la lecture du plan Avenir Montagne, même du plan mobilité, les propositions ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Et est-ce que la région a un rôle important à jouer ?
La région, comme toutes les collectivités, puisque c'est un phénomène de substitution. Si l'État ne remplit plus son rôle, il faut qu'il y ait une collectivité qui le prenne. La région aura a choisi de faire un plan pour l'hiver, pour la neige, pour le ski, pour le tourisme hivernal. Ce sont à peu près les propos de Laurent Wauquiez dans son allocution du 16 septembre. C'est clair, ils ont fait un choix orienté. En l'absence de cadre et de fonctionnement de la part de l'État, ils jouent leur partition. Ils sont dans leur rôle.
On défend la neige, le ski, et on ne parle pas de transition.
Parce que ce n'est pas leur objectif. Et la région, tout comme les départements, ont la possibilité d'intervenir comme leur politique locale le souhaite et la stratégie qu'ils vont défendre au niveau local. Donc, oui, ça, c'est le choix de la région assumé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est parti comme ça.
Est-ce qu'il y a un exemple, Eric, pour terminer, dont on pourrait s'inspirer ?
J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup, avec le risque à chaque fois, quand on essaye de s'inspirer d'un exemple, on essaye de le copier. Ça fait quand même à peu près 30 ans, quand moi je travaille sur ces sujets, que l'on regarde ce qui se passe en Autriche, puisque à chaque fois on nous dit les Autrichiens, ils travaillent bien. Et en fait, on essaye simplement de les copier, mais pas d'adapter leur ressort de fonctionnement, qui est relativement basique, hein, qui est quel est le service que je rends aux clients. C'est tout bête, hein. Et nous, on va essayer d'imaginer. Ah oui, on va mettre une tyrolienne parce que les Autrichiens l'ont fait. On fait du copier-coller. Il n'y a pas d'espace type. Et justement, chaque territoire avec son histoire et ses développements font que il faut adapter le territoire à la situation actuelle.
Et peut-être la question que tu poses, la question que les Autrichiens se posent, qu'on se la pose un tout petit peu plus, notamment dans ces débats autour de la transition. Quel est le produit, quel est le service qu'on vend aux clients ?
Il y a quelques années, j'avais trouvé une formule lors d'un séminaire. On avait dit il faut arrêter de compter les clients et il faut compter les territoires de montagne. Mais c'est pas, on n'écrit pas compter de la même façon et on raconte pas la même histoire. Pendant très longtemps, on a cherché à voir, je pense aux Chinois, on attend que les clientèles asiatiques déferlent chez nous. Et en fait, il faut qu'on revienne aux racines de la montagne. J'en parle d'autant plus facilement que moi, je ne suis pas de là, enfin, je ne suis pas des territoires de montagne. On a besoin de raconter la montagne, on a besoin d'en profiter. C'est un territoire où la nature est très présente, où on a l'air pur. On a 98% de la clientèle qui vient, en zone saturée de monoxyde de carbone et on peut lui vendre l'air pur. C'est un véritable atout qu'on avait essayé de vendre dans le cadre de Ski France International en 2005 et qui a été trouvé trop ringard à l'époque, hein, parce que ça faisait sanatorium, c'était pas cool. Mais je pense que sur cette idée-là, c'est pas le nombre de clients qui est important. On passe notre temps à dire que c'est une expérience. Maintenant, le tourisme, c'est une expérience. Faisons l'expérience de demander au client ce qu'il a envie, comment on peut bien l'accueillir et qu'on vienne de lui raconter ce que sont nos montagnes, parce que même maintenant, moi, ce sont mes montagnes, et comment on s'est transformé, comment on a évolué, et comment on va se préparer pour l'avenir.
Merci Eric, pour tout ce que tu nous as raconté.
Merci Guillaume.
trois points qu'on peut retenir de notre conversation sont d'abord que les plans Castex évoqués, respectivement les plans nationaux et régionaux de soutien au business des sports d'hiver, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils mobilisent, selon Eric Adamkiewicz, des vieilles recettes qui ont déjà montré qu'elles ne marchaient pas, notamment avec les lits froids. Les lits froids, c'est le deuxième point. Les lits froids sont des lits peu occupés, moins de 3 semaines par an, et ils représentent près de la moitié des lits touristiques en montagne. À titre de comparaison, l'Autriche, pour une fréquentation touristique équivalente à la France, possède 2 fois moins de lits touristiques. Troisième et dernier point, qui peut paraître évident, c'est de s'intéresser au client, lui raconter la montagne, lui poser des questions, savoir pourquoi il vient, quelles sont ses motivations, ce qu'il attend de la montagne et comment il souhaite qu'elle évolue. Ce podcast est produit par Benjamin Blanc de la Régie des Pistes de la Vallée des Belles-Villes et Guillaume Desmures. Réalisation, Guillaume Desmures pour Murmure Studio. Mise en onde, Sébastien Pintiot pour Homework Studio. Musique, Jérémy Rassa. Diffusion, Clotilde Drouet.